Chapitre 7. Marie-Antoinette Joseph, archiduchesse d'Autriche, magie. Il n'y avait pas de temps à perdre, en effet, comme l'avait dit Balsamo. Un grand bruit de voitures, de chevaux et de voix retentissait dans le chemin, si paisible d'ordinaire, qui conduisait de la route à la maison du baron de Tavernay. On vit alors trois carrosses, dont l'un, chargé de dorures et de bas-reliefs mythologiques, n'était pas, malgré sa magnificence, moins poudreux ou moins éclaboussé que les autres, s'arrêter près de la porte que tenait ouverte Gilbert, dont les yeux dilatés et le tremblement fébrile indiquaient la vive émotion à l'aspect de tant de grandeur. 20 cavaliers, tout jeunes et brillants, vinrent se ranger près de la principale voiture lorsqu'en descendit, soutenu par un homme vêtu de noir, portant en sautoir l'habit de grand cordon de l'ordre, une jeune fille de 15 à 16 ans, coiffée sans poudre, mais avec une simplicité qui n'empêchait pas sa chevelure de s'élever un pied au-dessus de son front. Marie-Antoinette, car c'était elle, arrivait en France avec une réputation de beauté que n'y apportaient pas toujours les princesses destinées à partager le trône de nos rois. Il était difficile d'avoir une opinion sur ses yeux qui, sans être précisément beaux, prenaient à sa volonté toutes les expressions et surtout celles si opposées de la douceur et du dédain. Son nez était bien fait, sa lèvre supérieure était belle, mais sa lèvre inférieure, aristocratique héritage de 17 Césars, trop épaisse, trop avancée, quelquefois même tombante, ne semblait pas aller convenablement à ce joli visage que lorsque ce joli visage voulait exprimer la colère ou l'indignation. Son teint était admirable, on voyait le sang courir sous le tissu délicat de sa peau. Sa poitrine, son cou, ses épaules étaient d'une suprême beauté, ses mains étaient royales. Elle avait deux démarches bien distinctes. L'une qu'elle prenait, et celle-là était ferme, noble et un peu pressée, l'autre à laquelle elle se laissait aller, et celle-là était molle, balancée et, pour ainsi dire, caressante. Jamais femme n'avait fait la révérence avec plus de grâce, jamais reine n'avait salué avec plus de science. Pliant la tête une seule fois pour 10 personnes, et dans cette seule et unique inclinaison, donnant à chacun ce qui lui revenait. Ce jour-là, Marie-Antoinette avait son regard de femme, son sourire de femme, et même de femme heureuse. Elle était décidée, si la chose était possible, à ne pas redevenir dauphine de la journée. Le calme le plus doux régnait sur son visage, la bienveillance la plus charmante animait ses yeux. Elle était vêtue d'une robe de soie blanche et ses beaux bras nus supportaient un mantelet d'épaisse dentelle. À peine eut-elle mis pied à terre qu'elle se retourna pour aider à descendre de voiture une de ces dames d'honneur que l'âge appesantissait un peu. Puis, refusant le bras que lui offrait l'homme à l'habit noir et au cordon bleu, elle s'avança, libre, aspirant l'air et jetant les yeux autour d'elle, comme si elle voulait profiter jusqu'en ses moindres détails de la rare liberté qu'elle se donnait. « Oh, le beau site, les beaux arbres, la gentille maisonnette, dit-elle, qu'on doit être heureux dans ce bonheur et sous ces arbres qui vous cachent si bien !» À ce moment, Philippe de Tavernay arriva, suivi d'André, qui, avec ses longs cheveux tordus en nattes et vêtu d'une robe de soie gris de lin, donnait le bras au baron, vêtu d'un bel habit de velours bleu de roi, débris de son ancienne splendeur. Il va sans dire que, suivant la recommandation de Balsamo, le baron n'avait pas oublié son grand cordon de Saint-Louis. La dauphine s'arrêta sitôt qu'elle vit les deux personnes qui venaient à elle. Autour de la jeune princesse se groupa sa cour, officiers tenant leurs chevaux par la bride, courtisans, le chapeau à la main, s'appuyant aux bras les uns des autres et chuchotant tout bas. Philippe de Tavernay s'approcha de la dauphine, pâle d'émotion et avec une noblesse mélancolique. « Madame, dit-il, si votre Altesse royale le permet, j'ai l'honneur de lui présenter monsieur le baron de Tavernay-Maison-Rouge, mon père, et mademoiselle Claire-Andrée de Tavernay, ma sœur. » Le baron s'inclina profondément, et en homme qui sait saluer les reines. André déploya toute la grâce de sa timidité élégante, toute la politesse si flatteuse d'un respect sincère. Marie-Antoinette regardait les deux jeunes gens, et comme ce que lui avait dit Philippe de la pauvreté de leur père lui revenait à l'esprit, elle devinait leur souffrance. « Madame, dit le baron d'une voix pleine de dignité, votre Altesse royale fait trop d'honneur au château de Tavernet. Une si humble demeure n'est pas digne de recevoir tant de noblesse et de beauté. » Ah, je sais que je suis chez un vieux soldat de France, répondit la dauphine, et ma mère, l'impératrice Marie-Thérèse, qui a beaucoup fait la guerre, m'a dit que dans votre pays, les plus riches de gloire sont presque toujours les plus pauvres d'argent. Et avec une grâce ineffable, elle tendit sa belle main à André, qui la baisa en s'agenouillant. Cependant, le baron, tout à son idée dominante, s'épouvantait de ce grand nombre de gens qui allaient emplir sa petite maison et manquer de sièges. La dauphine le tira tout à coup d'embarras. « Messieurs, dit-elle en se tournant vers les personnes qui composaient son escorte, vous ne devez ni porter la fatigue de mes fantaisies, ni jouir du privilège d'une dauphine. Vous attendrez donc ici, je vous prie, dans une demi-heure, je reviens. » « Accompagnez-moi, ma bonne Langershausen, dit-elle en allemand à celle de ses femmes qu'elle avait aidée à descendre de voiture. « Suivez-nous, monsieur, dit-elle au seigneur vêtu de noir. » Celui-ci, qui, sous son simple habit, offrait une élégance remarquable, était un homme de 30 ans à peine, beau de visage et de gracieuses manières. Il se rangea pour laisser passer la princesse. Marie-Antoinette prit à son côté André et fit signe à Philippe de venir auprès de sa sœur. Quant au baron, il se trouva près du personnage, éminent sans doute, à qui la dauphine accordait l'honneur de l'accompagner. « Vous êtes donc un tavernet Maison Rouge, » dit celui-ci au baron, en chiquenaudant avec une impertinence tout aristocratique son magnifique jabot de dentelle d'Angleterre. « Faut-il que je réponde, monsieur ou monseigneur ?» demanda le baron avec une impertinence qui ne le cédait en rien à celle du gentilhomme vêtu de noir. « Dites tout simplement mon prince, » répondit celui-ci, « ou votre éminence, si vous l'aimez mieux. »« Eh bien oui, votre éminence, je suis un tavernet Maison Rouge, un vrai, » dit le baron, sans quitter tout à fait le ton railleur qu'il perdait si rarement. L'éminence, qui avait le tact des grands seigneurs, s'aperçut facilement qu'elle avait affaire à quelque chose de mieux qu'un hobereau. « Cette maison est votre séjour d'été, » continua-t-elle. « D'été et d'hiver, » répliqua le baron, qui désirait en finir avec ses interrogations déplaisantes, mais en accompagnant chacune de ses réponses d'un grand salut. Philippe, de son côté, se retournait de temps en temps du côté de son père avec inquiétude. La maison semblait en effet s'approcher menaçante et ironique pour montrer impitoyablement sa pauvreté. Déjà le baron étendait avec résignation la main vers le seuil désert de visiteurs quand la dauphine, se tournant vers lui, « Excusez-moi, monsieur, de ne point entrer dans la maison. Ces ombrages me plaisent tant que j'y passerai ma vie. Je suis un peu lasse des chambres. C'est dans les chambres que l'on me reçoit depuis 15 jours, moi qui n'aime que l'air, l'ombrage et le parfum des fleurs. » Puis, s'adressant à André, « Mademoiselle, vous me ferez bien apporter sous ces beaux arbres une tasse de lait, n'est-ce pas ?»« Votre Altesse, dit le baron, pâlissant, comment oser vous offrir une si triste collation ?»« C'est ce que je préfère, avec des œufs frais, monsieur. Des œufs frais et du laitage, c'était mes festins de Schönbrunn. » Tout à coup, la brie, radieux et bouffie d'orgueil, sous une livrée magnifique, tenant une serviette au poing, apparut en avant d'une tonnelle de jasmin dont, depuis quelques instants, la dauphine semblait envier l'ombrage. « Son Altesse royale est servie, » dit-il avec un mélange impossible à rendre de sérénité et de respect. « Oh, mais je suis chez un enchanteur !» s'écria la princesse en riant. Et elle courut, plutôt qu'elle ne marcha, vers le berceau odorant. Le baron, très inquiet, oublia l'étiquette et quitta les côtés du gentilhomme vêtu de noir pour courir sur les pas de la dauphine. Philippe et André se regardaient avec un mélange d'étonnement et d'anxiété dans lequel l'anxiété dominait visiblement. La dauphine, en arrivant sous les arceaux de verdure, poussa un cri de surprise. Le baron, qui arrivait derrière elle, poussa un soupir de satisfaction. André laissa tomber ses mains d'un air qui signifiait « Qu'est-ce que cela veut dire, mon Dieu ?» La jeune dauphine vit du coin de l'œil toute cette pantomime. Elle avait un esprit capable de comprendre ces mystères, si son cœur ne les lui eût fait déjà deviner. Sous les lianes de clématite, de jasmin et de chèvrefeuille fleurie, dont les noueuses tiges lançaient mille éperamous, une table ovale était dressée, éblouissante, et par l'éclat du linge de damas qui la couvrait, et par le service de vermeil ciselé qui couvrait le linge. 10 couverts attendaient 10 convives. Une collation recherchée, mais d'une composition étrange, avait tout d'abord attiré les regards de la dauphine. C'étaient des fruits exotiques confits dans du sucre, des confitures de tous les pays, des biscuits d'Alep, des oranges de Malte, des limons et des cédrats d'une grosseur inouïe, le tout reposant dans de vastes coupes. Enfin, les vins les plus riches de tous et les plus nobles origines étincelaient de toutes les nuances du rubis et du topaz dans 4 admirables carafes taillées et gravées en perse. Le lait qu'avait demandé la dauphine emplissait une aiguillère de vermeil. La dauphine regarda autour d'elle et ne vit parmi ses hôtes que des visages pâles et effarés. Les gens de l'escorte admiraient et se réjouissaient sans rien comprendre, mais aussi sans chercher à comprendre. « Vous m'attendiez donc, monsieur ?» demanda la dauphine au baron de Tavernet. « Moi, madame ?» balbutia celui-ci. « Sans doute, ce n'est pas en 10 minutes que l'on fait de pareils préparatifs et je suis chez vous depuis 10 minutes à peine. » Et elle acheva sa phrase en regardant la bride d'un air qui voulait dire « surtout quand on n'a qu'un seul valet ».« Madame, répondit le baron, j'attendais effectivement votre Altesse royale, ou plutôt j'étais prévenu de son arrivée. » La dauphine se tourna vers Philippe. « Monsieur, vous avez donc écrit ?» demanda-t-elle. « Non, madame. » Personne ne savait que je dusse m'arrêter chez vous, monsieur, pas même moi, dirais-je presque, car je cachais mon désir à moi-même pour ne pas causer ici l'embarras que je cause, et je n'en ai parlé que cette nuit à monsieur votre fils, lequel était encore près de moi il y a 1 heure et n'a dû me précéder que de quelques minutes. En effet, madame, d'un quart d'heure à peine. Alors c'est quelque fée qui vous aura révélé cela, la marraine de mademoiselle peut-être, ajouta la dauphine en souriant et en regardant André. Madame, dit le baron en offrant un siège à la princesse, ce n'est point une fée qui m'a averti de cette bonne fortune, c'est, répliqua la princesse en voyant que le baron hésitait. Oh, ma foi, c'est un enchanteur. Un enchanteur, comment cela? Je n'en sais rien, car je ne me mêle point de magie, mais enfin c'est à lui, madame, que je dois de recevoir à peu près décemment votre Altesse royale, dit le baron. Alors nous ne pouvons toucher à rien, dit la dauphine, puisque cette collation que nous avons devant nous est l'œuvre de la sorcellerie, et son éminence s'est trop pressée, ajouta-t-elle, en se tournant vers le seigneur vêtu de noir, d'ouvrir ce pâté de Strasbourg, dont nous ne mangerons certainement pas. Et vous, ma chère amie, dit-elle à sa gouvernante, défiez-vous de ce vin de Chypre et faites comme moi. Ce disant, la dauphine se versa, d'une carafe ronde comme un globe et à petit col, un grand verre d'eau dans un gobelet d'or. Mais, en effet, dit André avec une sorte d'effroi, son Altesse a peut-être raison. Philippe tremblait de surprise et, ignorant tout ce qui s'était passé la veille, regardait alternativement son père et sa sœur, essayant de deviner dans leur regard ce qu'ils devinaient par eux-mêmes. « C'est tout contraire au dogme, dit la dauphine, et monsieur le cardinal va pécher. « Madame, dit le prélat, nous sommes trop mondains, nous autres princes de l'Église, pour croire aux colères célestes à propos de victuailles, et trop humains surtout, pour brûler de braves sorciers qui nous nourrissent de si bonnes choses. « Ne plaisantez pas, monseigneur, dit le baron, je jure à votre éminence que l'auteur de tout ceci est un sorcier, très sorcier, qui m'a prédit, voici 1 heure à peu près, l'arrivée de son Altesse et celle de mon fils. »« Voici 1 heure ? Demanda la dauphine. « Oui, tout au plus. » Et depuis 1 heure, vous avez eu le temps de faire dresser cette table, de mettre à contribution les 4 parties du monde pour réunir ces fruits et faire venir des vins de Tokaï, de Constance, de Chypre et de Malaga. Dans ce cas, monsieur, vous êtes plus sorcier que votre sorcier. Non, madame, c'est lui, et toujours lui. Comment, toujours lui? Oui, qui a fait sortir de terre cette table toute servie, telle qu'elle l'est, enfin? Votre parole, monsieur, demanda la princesse. Foi de gentilhomme, répondit le baron. Ah, bah, s'écria le cardinal du ton le plus sérieux, et en abandonnant son assiette, j'ai cru que vous plaisantiez. Non, votre éminence, vous avez chez vous un sorcier, un vrai sorcier. Un vrai sorcier, et je ne serais même pas étonné que l'or dont est composé ce service ne fût de sa façon. Il connaîtrait la pierre philosophale, s'écria le cardinal, les yeux brillants de convoitise. Oh, comme cela va, monsieur le cardinal, dit la princesse, lui qui l'a cherché toute sa vie sans la pouvoir trouver. J'avoue à votre altesse, répondit la mondaine éminence, que je ne trouve rien de plus intéressant que les choses surnaturelles, rien de plus curieux que les choses impossibles. Ah, j'ai touché l'endroit vulnérable, à ce qu'il paraît, dit la dauphine. Tout grand homme a ses mystères, surtout quand il est diplomate. Moi aussi, je vous en préviens, monsieur le cardinal, je suis très fort en sorcellerie, et je devine parfois des choses, sinon impossibles, sinon surnaturelles, du moins incroyables. C'était là sans doute une énigme compréhensible pour le cardinal seul, car il se montra visiblement embarrassé. Il est vrai de dire que l'œil si doux de la dauphine s'était allumé en lui parlant d'un de ces éclairs qui annonçaient chez elle un orage intérieur. Cependant, l'éclair seul parut, rien ne gronda, la dauphine se contint et reprit. « Voyons, monsieur de Tavernet, pour rendre la fête complète, montrez-nous votre sorcier, où est-il? Dans quelle boîte l'avez-vous mis ?»« Madame, répondit le baron, c'est bien plutôt lui qui me mettrait, moi et ma maison, dans une boîte. »« Ah, vous piquez ma curiosité, en vérité, dit Marie-Antoinette. Décidément, monsieur, je veux le voir. » Le ton dont avaient été prononcées ces paroles, tout en gardant ce charme que Marie-Antoinette savait donner à ces paroles, n'admettait cependant point de réplique. Le baron, qui était resté debout avec son fils et sa fille pour servir la dauphine, le comprit parfaitement. Il fit un signe à l'abri qui, au lieu de servir, contemplait les illustres convives et semblait se payer, par cette vue, de 20 ans de gages arriérés. Celui-ci releva la tête. « Allez prévenir monsieur le baron Joseph Balsamo, dit Tavernet, que son Altesse royale, madame la dauphine, désire le voir. » L'abri partit. « Joseph Balsamo, dit la dauphine, quel singulier nom est-ce là ?»« Joseph Balsamo, répéta en rêvant le cardinal, je connais ce nom, il me semble. » 5 minutes s'écoulèrent sans que personne eût l'idée de rompre le silence. Tout à coup, André tressaillit. Elle entendait bien, avant qu'il fût perceptible aux autres oreilles, un pas qui s'avançait sous la feuillée. Les branches s'écartèrent et Joseph Balsamo apparut juste en face de Marie-Antoinette. Balsamo s'inclina humblement, mais presque aussitôt, relevant sa tête pleine d'intelligence et d'expression, il attacha fixement, quoique avec respect, son regard clair sur la dauphine et attendit, silencieusement, que celle-ci l'interrogea. « Si c'est de vous dont vient de nous parler, monsieur de Tavernet, dit Marie-Antoinette, approchez-vous, monsieur, que nous voyons comment est fait un sorcier. » Balsamo fit encore un pas et s'inclina une seconde fois. « Vous faites métier de prédire, monsieur, dit la dauphine, regardant Balsamo avec une curiosité plus grande peut-être qu'elle n'eût voulu la lui accorder, et en buvant son lait à petite gorgée. « Je n'en fais pas métier, madame, dit Balsamo, mais je prédis. » « Nous avons été élevés dans une foi éclairée, dit la dauphine, et les seuls mystères auxquels nous ajoutions foi sont les mystères de la religion catholique. » « Ils sont vénérables, sans doute, dit Balsamo, avec un recueillement profond. Mais voilà monsieur le cardinal de Rohan qui dira à votre Altesse, tout prince de l'Église qu'il est, que ce ne sont point les seuls mystères qui méritent le respect. » Le cardinal tressaillit. Il n'avait dit son nom à personne. Personne ne l'avait prononcé, et cependant, l'étranger le connaissait. Marie-Antoinette ne parut point remarquer cette circonstance et continua. « Vous avouerez du moins, monsieur, que ce sont les seuls que l'on ne controverse point. »« Madame, répondit Balsamo avec le même respect, mais avec la même fermeté, à côté de la foi, il y a la certitude. » Vous parlez un peu obscurément, monsieur le sorcier. Je suis bonne française de cœur, mais pas encore d'esprit, et je ne comprends pas très bien les finesses de la langue. Il est vrai que l'on m'a dit que monsieur de Bièvre m'apprendrait tout cela, mais en attendant, je suis forcé de vous prier d'être moins énigmatique, si vous voulez que je vous comprenne. Et moi, dit Balsamo, en secouant la tête avec un mélancolique sourire, je demanderai à votre Altesse la permission de rester obscur. J'aurais trop de regrets de dévoiler à une si grande princesse un avenir qui, peut-être, ne serait point selon ses espérances. Oh, ceci est plus grave, dit Marie-Antoinette, et monsieur veut piquer ma curiosité, espérant que j'exigerai de lui qu'il me dise ma bonne aventure. Dieu me préserve au contraire d'y être forcé, madame, dit froidement Balsamo. Oui, n'est-ce pas, reprit la dauphine en riant, car cela vous embarrasserait fort. Mais le sourire de la dauphine s'éteignit sans que le rire d'aucun courtisan lui fît écho. Tout le monde subissait l'influence de l'homme singulier qui était, pour le moment, le centre de l'attention générale. Voyons, avouez franchement, dit la dauphine. Balsamo s'inclina sans répondre. C'est vous cependant qui avez prédit mon arrivée à monsieur de Tavernet, reprit Marie-Antoinette avec un léger mouvement d'impatience. Oui, madame, c'est moi. Comment cela, baron? Demanda la dauphine qui commençait à éprouver le besoin d'entendre une autre voix se mêler à l'étrange dialogue qu'elle regrettait peut-être d'avoir entrepris, mais qu'elle ne voulait pas cependant abandonner. Oh mon Dieu, madame, dit le baron de la façon la plus simple, en regardant dans un verre d'eau. Est-ce vrai? Interrogea la dauphine, revenant à Balsamo. Oui, madame, répondit celui-ci. C'est là votre grimoire, il est innocent, du moins, puissent vos paroles être aussi claires. Le cardinal sourit. Le baron s'approcha. Madame la dauphine n'aura rien à apprendre de monsieur de Bièvre, dit-il. Oh, mon cher hôte, dit la dauphine avec gaieté, ne me flattez pas, ou flattez-moi mieux. J'ai dit quelque chose d'assez médiocre, ce me semble. Revenons à monsieur. Et Marie-Antoinette se retourna du côté de Balsamo, vers lequel une puissance irrésistible semblait l'attirer, malgré elle, comme on est parfois attiré vers un endroit où nous attend quelque malheur. Si vous avez lu l'avenir pour monsieur dans un verre d'eau, ne pourriez-vous pas le lire pour moi dans une carafe? Parfaitement, madame, dit Balsamo. Pourquoi refusiez-vous donc alors tout à l'heure? Parce que l'avenir est incertain, madame, et que si j'y voyais quelques nuages. Balsamo s'arrêta. Eh bien, demanda la dauphine. Eh bien, j'aurai, comme j'ai déjà eu l'honneur de vous le dire, le regret d'attrister votre Altesse royale. Vous me connaissiez déjà, ou m'avez-vous vu pour la première fois? J'ai eu l'honneur de voir votre Altesse tout enfant dans son pays natal, près de son auguste mère. Vous avez vu ma mère? J'ai eu cet honneur, c'est une auguste et puissante reine. Impératrice, monsieur. J'ai voulu dire reine par le cœur et par l'esprit. Et cependant, des réticences, monsieur, et à l'endroit de ma mère, dit la dauphine avec dédain. Les plus grands cœurs ont leur faiblesse, madame, surtout quand ils croient qu'il s'agit du bonheur de leurs enfants. L'histoire, je l'espère, dit Marie-Antoinette, ne constatera pas une seule faiblesse dans Marie-Antoinette. Parce que l'histoire ne saura pas ce qui n'est su que de l'impératrice Marie-Thérèse, de votre Altesse royale et de moi. Nous avons donc un secret à nous trois, monsieur, dit en souriant dédaigneusement la dauphine. À nous trois, madame, répondit tranquillement Balsamo, oui, à nous trois. Voyons ce secret, monsieur. Si je le dis, ce n'en sera plus un. N'importe, dites toujours. Votre Altesse le désire? Je le veux. Balsamo s'inclina. Il y a au palais de Schönbrunn, dit-il, un cabinet qu'on appelle le cabinet de Saxe à cause des magnifiques vases de porcelaine qu'il renferme. Oui, dit la dauphine après. Ce cabinet fait partie de l'appartement particulier de Sa Majesté l'impératrice Marie-Thérèse. Oui, c'est dans ce cabinet qu'elle fait d'habitude sa correspondance intime. Oui. Sur un magnifique bureau de boule qui fut donné à l'empereur François Ier par le roi Louis XV. Jusqu'ici, ce que vous dites est vrai, monsieur, mais tout le monde peut savoir ce que vous dites. Que votre majesté daigne prendre patience. Un jour, c'était un matin vers 7 heures, l'impératrice n'était pas encore levée, votre Altesse entra dans ce cabinet par une porte qui lui est particulière, car parmi les augustes filles de Sa Majesté l'impératrice, votre Altesse était la bien-aimée. Après, monsieur, votre Altesse s'approcha du bureau. Votre Altesse doit s'en souvenir, il y a juste 5 ans de cela. Continuez. Votre Altesse s'approcha du bureau. Sur le bureau était une lettre, toute ouverte, que l'impératrice avait écrite la veille. Eh bien ? Eh bien, votre Altesse lut cette lettre. La dauphine rougit légèrement. Et après l'avoir lue, sans doute votre Altesse fut mécontente de quelques expressions, car elle prit la plume et, de sa propre main, la dauphine semblait attendre avec anxiété. Balsamo continua. Elle raya 3 mots. Et ces 3 mots, quels étaient-ils ? S'écria vivement la dauphine. C'étaient les premiers de la lettre. Je ne vous demande pas la place où ils se trouvaient, mais quelle était leur signification ? Un trop grand témoignage d'affection, sans doute, pour la personne à qui la lettre était adressée. De là cette faiblesse dont je disais qu'en une circonstance, au moins, votre auguste mère aurait pu être accusée. Ainsi, vous vous souvenez de ces 3 mots ? Je m'en souviens. Vous pourriez me les redire ? Mais parfaitement. Redites-les. Tout haut ? Oui. Ma chère amie. Marie-Antoinette se mordit les lèvres en pâlissant. Maintenant, dit Balsamo, votre Altesse royale veut-elle que je lui dise à qui cette lettre était adressée ? Non, mais je veux que vous me l'écriviez. Balsamo tira de sa poche une espèce d'agenda à fermoir d'or, écrivit sur une de ses feuilles quelques mots avec un crayon du même métal, déchira la feuille de papier et la présenta en s'inclinant à la princesse. Marie-Antoinette prit la feuille de papier et lut. La lettre était adressée à la maîtresse du roi Louis XV, à Madame la marquise de Pompadour. La dauphine releva son regard étonné sur cet homme aux paroles si nettes, à la voix si pure et si peu émue, qui, tout en la saluant très bas, paraissait la dominer. « Tout cela est vrai, monsieur, dit-elle, et quoique j'ignore par quels moyens vous avez surpris ces détails, comme je ne sais pas mentir, je le répète tout haut, cela est vrai. » Alors, dit Balsamo, que votre Altesse me permette de me retirer et se contente de cette preuve innocente de ma science. Non pas, monsieur, reprit la dauphine piquée. Plus vous êtes savant, plus je tiens à ma prédiction. Vous m'avez parlé du passé, ce que je réclame de vous, c'est l'avenir. La princesse prononça ces quelques mots avec une agitation fébrile qu'elle essayait vainement de cacher à ses auditeurs. Je suis prêt, dit Balsamo, et cependant, je supplierai encore une fois à votre Altesse royale de ne point me presser. Je n'ai jamais répété 2 fois « je veux », et vous vous rappelez, monsieur, que je l'ai déjà dit 1 fois. Laissez-moi tout au moins consulter l'oracle, madame, dit Balsamo d'un ton suppliant. Je saurai ensuite, si je puis, révéler la prédiction à votre Altesse royale. « Bonne ou mauvaise, je la veux. Entendez-vous bien, monsieur ?» reprit Marie-Antoinette avec une irritation croissante. « Bonne, je n'y croirais pas, la prenant pour une flatterie. Mauvaise, je la considérerais comme un avertissement, et quelle qu'elle soit, je vous promets de vous en savoir gré. Commencez donc. » La princesse prononça ces derniers mots d'un ton qui n'admettait ni observation ni retard. Balsamo prit la carafe ronde au col court, dont nous avons déjà parlé, et la posa sur une coupe d'or. Ainsi éclairée, l'eau rayonna de reflets fauves qui, mêlés à la nacre des parois et aux diamants du centre, parurent offrir quelques significations aux regards attentifs du devin. Chacun fit silence. Balsamo éleva dans ses mains la carafe de cristal, et après l'avoir considérée un instant avec attention, il la reposa sur la table en secouant la tête. « Eh bien ? » demanda la dauphine. « Je ne puis parler, » dit Balsamo. Le visage de la princesse prit une expression qui signifiait visiblement « Sois tranquille, je sais comment on fait parler ceux qui veulent se taire. »« Parce que vous n'avez rien à me dire, » reprit-elle tout haut. Il y a des choses qu'on ne doit jamais dire au prince, madame, répliqua Balsamo d'un ton indiquant qu'il était décidé à résister, même aux ordres de la dauphine. Surtout, reprit celle-ci, quand ces choses-là, je le répète, se traduisent par le mot rien. Ce n'est point là ce qui m'arrête, madame, au contraire. La dauphine sourit dédaigneusement. Balsamo paraissait embarrassé. Le cardinal commença de lui rire au nez, et le baron s'approcha en grommelant. « Allons, allons, dit-il, voilà mon sorcier usé, il n'a pas duré longtemps. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à voir toutes ces tasses d'or se changer en feuilles de vigne, comme dans le conte oriental. » « J'eusse mieux aimé, reprit Marie-Antoinette, de simples feuilles de vigne que tout cet étalage fait par monsieur pour en arriver à m'être présenté. » « Madame, reprit Balsamo, fort pâle, daignez vous rappeler que je n'ai pas sollicité cet honneur. »« Monsieur, il n'était pas difficile de deviner que je demanderais à vous voir. »« Pardonnez-lui, madame, dit André à voix basse, il a cru bien faire. » « Et moi, je vous dis qu'il a eu tort, » répliqua la princesse de façon à n'être entendue que de Balsamo et d'André. On ne se hausse pas en humiliant un vieillard. Et quand elle peut boire dans un verre d'étain d'un gentilhomme, on ne force pas une dauphine de France à boire dans le verre d'or d'un charlatan. Balsamo se redressa, frissonnant, comme si quelque vipère l'eût mordu. « Madame, dit-il d'une voix frémissante, je suis prêt à vous faire connaître votre destinée, puisque votre aveuglement vous pousse à le savoir. » Balsamo prononça ces quelques paroles d'un ton si ferme et si menaçant à la fois que les assistants sentirent un froid glacial courir dans leurs veines. La jeune archiduchesse pâlit visiblement. « Gib ihn kein Gehör, mein Tochter, ne l'écoutez pas, ma fille, dit en allemand la vieille dame à Marie-Antoinette.
Lass sie hören, sie has feißen gewollen und so sie wissen.
Laissez-la écouter, elle a voulu savoir, elle saura, répondit Balsamo dans la même langue. Ces mots prononcés dans un idiome étranger et que quelques personnes seulement comprirent donnèrent encore plus de mystère à la situation. Allons, dit la dauphine en résistant aux efforts de sa vieille tutrice, allons, qu'il parle. Si je lui disais de se taire maintenant, il croirait que j'ai peur. Balsamo entendit ces paroles, et un sombre mais furtif sourire se dessina sur ses lèvres. « C'est bien ce que j'avais dit, murmura-t-il, un courage fanfaron. « Parlez, dit la dauphine, parlez, monsieur. Votre Altesse royale exige donc toujours que je parle. Je ne reviens jamais sur une décision. « Alors à vous seule, madame, dit Balsamo. « Soit, dit la dauphine, je le forcerai dans ses derniers retranchements. Éloignez-vous. » Et sur un signe qui faisait comprendre que l'ordre était général, chacun se retira. « C'est un moyen comme un autre, dit la dauphine, en se retournant vers Balsamo, d'obtenir une audience particulière, n'est-ce pas, monsieur ?»« Ne cherchez point à mériter, madame, reprit l'étranger. Je ne suis qu'un instrument dont Dieu se sert pour vous éclairer. Insultez la fortune, elle vous le rendra, elle, car elle sait bien se venger. Moi, je traduis seulement ses caprices. » Ne faites donc pas plus peser sur moi la colère qui vous vient de mon retard que vous ne ferez payer les malheurs dont je ne suis que le héros sinistre. Alors il paraît que ce sont des malheurs, dit la dauphine, adoucie par l'expression respectueuse de Balsamo et désarmée par son apparente résignation. Oui, madame, et de très grands malheurs. Dites-les tous, j'essayerai. Eh bien, interrogez-moi. « D'abord, ma famille vivra-t-elle heureuse ? Laquelle ? Celle que vous quittez ou celle qui vous attend ? Oh, ma vraie famille, ma mère Marie-Thérèse, mon frère Joseph, ma sœur Caroline. Vos malheurs ne les atteindront pas. Ces malheurs me seront donc personnels, à vous et à votre nouvelle famille. Pouvez-vous m'éclairer sur ces malheurs ?
Je le puis.
La famille royale se compose de trois princes.
« Oui,
le duc de Berry, le comte de Provence, le comte d'Artois. À merveille. Quel sera le sort de ces trois princes ?
Ils régneront tous trois.
Je n'aurai donc pas d'enfants ?
Vous en aurez.
Alors ce ne seront pas des fils ?
Il y aura des fils parmi les enfants que vous aurez.
J'aurai donc la douleur de les voir mourir.
Vous regretterez que l'un soit mort, vous regretterez que l'autre soit vivant.
« Mon époux m'aimera-t-il ?
Il vous aimera.
Beaucoup?
Trop.
Mais quels malheurs peuvent m'atteindre, je vous le demande, avec l'amour de mon mari et l'appui de ma famille?
L'un et l'autre vous manqueront.
S'il me restera l'amour et l'appui du peuple.
L'amour et l'appui du peuple,
c'est l'océan pendant le calme. Avez-vous vu l'océan pendant une tempête, madame?
En faisant le bien, j'empêcherai la tempête de se lever, ou si elle se lève, je m'élèverai avec elle.
Plus la vague est haute, plus l'abîme qu'elle creuse est grand.
Dieu me restera.
Dieu ne défend pas les têtes qu'il a condamnées lui-même.
Mais que dites-vous là, monsieur, ne serais-je point reine?
Au contraire, madame, et plutôt ciel que vous ne le fussiez pas.
La jeune femme sourit dédaigneusement.
Écoutez, madame, reprit Balsamo, et souvenez-vous.
J'écoute, reprit la dauphine.
Avez-vous remarqué, continua le prophète, la tapisserie de la première chambre où vous avez couché en entrant en France?
Oui, monsieur, répondit la duchesse en frissonnant.
Que représentait cette tapisserie?
Un massacre, celui des innocents.
Avouez que les sinistres figures des massacreurs sont restées dans le souvenir de votre Altesse royale.
Je l'avoue, monsieur.
Eh bien, pendant l'orage, n'avez-vous rien remarqué?
Le tonnerre a brisé à ma gauche un arbre qui, en tombant, a failli écraser ma voiture.
Ce sont des présages, cela dit d'une voix sombre Balsamo.
Et des présages funestes?
Il serait difficile, ce me semble, de les interpréter autrement.
La dauphine laissa tomber sa tête sur sa poitrine, puis, se relevant après un moment de recueillement et de silence,
« Comment mourra mon mari ?»«
Sans tête. »«
Comment mourra le comte de Provence ?»«
Sans jambes. »«
Comment mourra le comte d'Artois ?»
« Sans cour. »«
Et moi ?»
Balsamo secoua la tête.
« Et parlez, dit la dauphine, parlez donc !»«
Je n'ai plus rien à dire. »«
Mais je veux que vous parliez !» s'écria Marie-Antoinette toute frémissante.
« Par pitié, madame !»«
Oh, parlez, dit la dauphine. »«
Jamais, madame, jamais !»«
Parlez, monsieur, reprit Marie-Antoinette avec le ton de la menace. « Parlez, ou je dirai que tout ceci n'est qu'une comédie ridicule. »« Et prenez-y garde, on ne se joue pas ainsi d'une fille de Marie-Thérèse, d'une femme qui tient dans ses mains la vie de 30 millions d'hommes. »
Balsamo resta muet.
« Allons, vous n'en savez pas davantage, » dit la princesse en haussant les épaules avec mépris, « ou plutôt votre imagination est à bout. »«
Je sais tout, vous dis-je, madame, » reprit Balsamo, « et puisque vous le voulez absolument,
oui, je le veux. »
Balsamo prit la carafe, toujours dans sa coupe d'or, puis la déposa dans un sombre enfoncement de la tonnelle où quelques rochers factices figuraient une grotte. Puis, saisissant l'archiduchesse par la main, il entraîna sous l'ombre noire de la voûte.
« Êtes-vous prête ? » dit-il à la princesse, que cette action véhémente avait presque effrayée.
« Oui. »
« Alors, à genoux, madame, à genoux, et vous serez en posture de prier Dieu qu'il vous épargne le terrible dénouement que vous allez voir. »
La dauphine obéit machinalement et se laissa aller sur ses deux genoux.
Balsamo toucha de sa baguette le globe de cristal, au milieu duquel se dessina sans doute quelque sombre et terrible figure.
La dauphine essaya de se relever, chancela un instant, retomba, poussa un cri terrible et s'évanouit.
Le baron accourut, la princesse était sans connaissance.
Au bout de quelques minutes, elle revint à elle.
Elle passa ses mains sur son front, comme une personne qui cherche à se rappeler ses souvenirs.
Puis, tout à coup, « La carafe !» s'écria-t-elle avec un accent d'inexprimable terreur.
« La carafe !»
Le baron la lui présenta, l'eau était limpide et sans une seule tache.
Balsamo avait disparu.